France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Péchinet. Délit d'amitié, délit d'initié. Ou quand les accointances entre le microcosme des affaires et de la sphère politique se transforment en délit. En 1988, lorsque l'entreprise d'aluminium Péchinet, alors nationalisée, décide de racheter l'américain leader de l'emballage, Triangle, personne ne se doute que la transaction va donner lieu au plus grand délit d'initié jamais jugé. Cette infraction, qui consiste à bénéficier d'une information avant tout le monde, permettant d'en tirer un bénéfice sur le marché boursier, jusqu'à l'affaire Péchinet-Triangle, eh bien cela n'avait donné lieu qu'à une vingtaine de poursuites devant les tribunaux pour des gains n'excédant jamais les 100 000 francs. Mais là, et pour la première fois, le butin va frôler les 50 millions de francs, ce qui est colossal. Et pour la première fois également, le monde petit politico-financier mis en cause va essuyer les plâtres d'une nouveauté juridique, le recel de délit d'initié. L'affaire Péchinet-Triangle, c'est l'histoire d'un succès économique éclipsé par les turpitudes d'un petit groupe proche du pouvoir et indirectement jusqu'au sommet du pouvoir. Notre invité aujourd'hui, Gilles Guettner, journaliste pour l'Express au moment de l'affaire Péchinet qui l'a couverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Juillet 1988, le soleil brille au-dessus du bois de Boulogne. On entend juste le bruit des balles que s'échangent les joueurs sur les terrains du Racing Club, cet endroit réservé à l'élite du tout Paris. Sur l'un des cours de tennis, deux hommes disputent une partie. L'un, Alain Boublil, est le directeur de cabinet du ministre des Finances, Pierre Bérégovoy. L'autre, c'est Jean-Louis Vinciguerra. Il est un proche collaborateur du PDG de Péchinet, Jean Gandois. Ses partenaires de tennis se croisent souvent au club. Et ils discutent affaires, business, autour d'un verre, après leur match. Ce 11 juillet, la discussion s'engage sur Péchinet. Depuis un an, la société américaine Triangle et le groupe français se tournent autour, évoquant des rachats potentiels. Cette fois, c'est Alain Boublil qui lance une proposition à Vinciguerra. Si Péchinet le souhaite, il peut activer ses contacts pour chercher une ouverture auprès du groupe américain Triangle, leader de l'emballage. Autrement dit, un gros poisson. Péchinet pourrait envisager de l'acheter. Et c'est précisément le métier de Boublil d'accompagner les industries françaises. L'homme, dont la carrière évolue dans le sillage de celle du Parti Socialiste, a la réputation d'être arrogant, mais aussi autodidacte, ce qui n'est pas forcément incompatible. Comme le décrit en tout cas ce portrait réalisé par TF1 à l'époque.
D'origine modeste, brillant, la carrière d'Alain Boublil a véritablement commencé lorsque Jacques Attali l'introduit à l'Élysée au lendemain des élections de 1981. Il arbitre les dossiers sur les nationalisations, prend en main les restructurations industrielles et commence à se faire quelques ennemis. Au retour de la gauche, Pierre Bérégovoy le prend comme directeur de cabinet. Des rumeurs commencent alors à circuler sur son train de vie, ses activités dans le négoce du vin et son intérêt pour les chevaux de course.
Hasard du calendrier ou non, le lendemain de la partie de tennis, Alain Boublil reçoit justement Nelson Pelst, le PDG Triangle. Celui-ci vient plaider un dossier pour un site industriel, mais Boublil, lui, a en tête sa discussion de la veille. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit dans ce bureau à ce moment-là. En revanche, on sait que Pelst s'est déclaré prêt à vendre sa société et qu'il est reparti avec l'information que Boublil souhaitait transmettre. Péchinet pourrait être intéressé. À cet instant, le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy sait probablement déjà à qui il va pouvoir confier le travail d'approche entre les deux parties. Un homme d'affaires libanais, un certain Samir Traboulsi, grand ami de la France, qui de surcroît connaît le PDG Triangle. Mais les liens privilégiés de Boublil avec les milieux moyen-orientaux font grincer les dents au Parti Socialiste. Qu'à cela ne tienne, ce dernier n'en a cure. Pour la réussite de l'industrie française, le directeur de cabinet de Bérégovoy est prêt à étudier toutes les pistes. Ça tombe bien, cet été-là, Boublil part en vacances avec son ami Traboulsi qui lui aussi s'est fait tout seul. Le portrait que dressent de lui les journalistes de l'époque dessine les contours d'un homme qui cultive, disons, une part d'ombre.
Samir Traboulsi est un homme précieux pour tout le monde. Cela fait 25 ans qu'il vit en France, fils de bonnetier libanais. Étudiant en droit, il s'installe ici, à Paris. À l'époque, Samir Traboulsi est associé au Saoudien Akram Ogé, l'homme qui, 10 ans plus tard, achètera le paquebot France. Et les affaires marchent pour Samir Traboulsi. Il s'occupe de tout. Et même, paraît-il, d'organiser les soirées privées de ses très riches clients. On lui prête le surnom de vizir des plaisirs.
Propriétaire de bateaux, grand amateur de tableaux de maître, à Monaco, Samir Traboulsi possède une suite réservée ici dans cet hôtel à l'année. Lieu idéal pour négocier toutes sortes de contrats.
Eh oui, négocier des contrats, c'est son fonds commerce. Alors bien sûr, Alain Boublil pense à Traboulsi pour rapprocher Péchiné de Triangle. En ce mois d'août, les deux hommes passent quelques jours avec leurs familles respectives sur le Pamimouche, yacht loué par Traboulsi. Parti de San Remo en Italie, il se dirige vers le sud de la Corse. Le Libanais a prévu d'y rejoindre Nelson Peltz, lui aussi en vacances, mais sur un autre yacht. Évidemment, les deux hommes ne se rejoignent pas par hasard. Ils mouillent leur bateau dans la baie de Figari, juste en face de la villa de Jean-Louis Vinci Guevara, qui lui est en vacances avec un collègue de Péchiné. Bien, tout ce beau monde entame donc les négociations en plein cœur de l'été sur le ponton d'un bateau. À vrai dire, les deux collaborateurs du PDG de Péchiné sont un peu surpris de trouver à bord le directeur de cabinet du ministre des Finances. Bah, c'est assez inattendu. C'est même un curieux mélange des genres. Le 11 août signe donc la première réunion de travail. Une semaine plus tard, Peltz envoie son avion privé en Corse chercher les deux dirigeants de Péchiné pour une nouvelle réunion. Celle-ci se tiendra encore une fois sous l'égide de Samir Traboulsi. C'est lui qui accueille les négociations dans sa suite de Monte-Carlo. Le PDG de Péchiné, Jean Gandois, a laissé ses deux plus proches collaborateurs amorcer les négociations. Et à vrai dire, il n'apprécie pas vraiment la présence quasi constante de l'homme d'affaires Traboulsi. Il aimerait que cette phase, qu'il sait délicate, ait lieu sans intermédiaire, que les négociations soient strictement confidentielles. Car toute fuite peut être fatale. Mais Peltz apprécie Traboulsi. Il choisit même d'en faire son représentant au grand dam du PDG de Péchiné. Le 27 septembre, les Américains rompent les négociations. Une manière de faire monter les enchères avant de reprendre. Et là encore, Samir Traboulsi se propose de rétablir le contact. Mais pour Gandois, c'est hors de question. Non, il n'a pas confiance dans cet homme d'affaires. Or, Traboulsi est partout. Le 3 octobre, Pierre Bérégovoy lui remet la Légion d'honneur et offre un dîner en son honneur, bien sûr, au ministère des Finances, sur la suggestion de son directeur de cabinet, Alain Boublil. Jean Gandois est présent à la réception, parmi une quarantaine d'invités, tout comme Roger Patrice Pellat, un ami intime du président François Mitterrand. Les discussions vont bon train entre les invités, et Gandois se rend à l'évidence, coincé, il finit par accepter la mise en relation avec Peltz, mais à une condition, que Traboulsi n'assiste plus aux nouvelles rencontres. En d'autres termes, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Jean Gandois n'est pas de la même trempe. Certes, lui aussi évolue dans le milieu des affaires, mais plutôt du côté des fleurons de l'économie nationale.
Gandois Jean, administrateur de société, nous dit le célèbre Wouzou qui nous permet d'apprendre qu'il fut bercé dans les deniers de l'État, son père Eugène étant receveur-percepteur des finances, il faudra s'en souvenir. Jean Gandois va être un homme de terrain, bourlinguant à ses débuts en Afrique et Amérique du Sud de travaux hydrauliques en programme routier. En 76, il devient vice-président puis président de Rhône-Poulenc, jusqu'à sa nationalisation en 82. Il franchira qu'un cas avant de démissionner en juillet. 86, certains journaux parleront de revanche lorsque Jean Gandois, après avoir été chargé d'étudier la sidérurgie française par le Premier ministre, sera nommé PDG de Péchiné. Une entreprise nationalisée, l'on retrouve les deniers de l'État.
Le 11 octobre, les négociations reprennent au Ritz, à Paris. Et un accord se profile. L'état-major de Péchiné suggère alors au PDG de commencer à en parler au gouvernement. Mais Gandois veut éviter tout risque de fuite. Il sait très bien que la société Triangle est cotée à Wall Street. Et même s'il craint d'essuyer un refus de la part de l'Élysée pour ce rachat, il préfère s'y prendre au dernier moment. À ce stade, et en principe, Personne au sein du gouvernement n'est censé savoir qu'une opération de rachat se profile à l'horizon. Mais dans les faits, rien n'est moins sûr. Donc, prudence. Vendredi 11 novembre 88, enfin, les ultimes modalités de l'accord sont conclues, mais aux États-Unis cette fois. Ravi de l'issue, Nelson Peltz appelle immédiatement son ami Trabulsi pour les prévenir. Voilà, l'affaire est dans le sac. Jean Gandois, qui tient toujours à préserver le secret, est dépité. Il en est sûr, l'affaire va s'ébruiter avant même qu'il ait le temps de prévenir le gouvernement. D'ailleurs, dès le lendemain, Samir Trabulsi l'appelle et le prévient. Vous savez, je connais beaucoup de personnes au sein du gouvernement. Alors si je peux vous être utile, surtout pas, répond le PDG de Péchiné. Il tient à faire les choses lui-même et dans les règles. Dimanche 13 novembre, la fête bat son plein au restaurant chez Edgar, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est le ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, qui célèbre ses 40 années de mariage avec sa femme Gilberte. Une soixantaine de convives sont invités, la famille, des amis de province, mais aussi Alain Boublil, Samir Trabulsi, décidément partout, ou encore Roger Patrice Pellat, l'ami intime de François Mitterrand. Qui sait de quoi ont parlé tous ces gens en dansant le passo-doble dans ce restaurant privatisé pour l'occasion? Le lendemain 14 novembre, retour aux affaires. Jean Gandois sollicite un entretien avec Pierre Bérégovoy pour enfin l'informer du rachat imminent. Mais à peine commence-t-il son exposé que le ministre des Finances l'interrompt. Il est tout à fait favorable au rachat Triangle par Péchiné. Le PDG est surpris. Pour un ministre qui était censé ne pas être au courant quelques heures avant, l'affaire est conclue bien rapidement. Première étape franchie, en tout cas. Reste à convaincre le président de la République. Et Gandois en est persuadé. Ce n'est pas une mince affaire. François Mitterrand n'a-t-il pas déclaré ni privatisation, ni nationalisation, le fameux Nini ? Or, racheter Triangle demande de passer en bourse une partie du capital d'une filiale de Péchiné. C'est une sorte de mini-privatisation. Dans l'esprit du PDG donc, rien n'est fait. Pourtant, il obtient le feu vert en quelques jours. Et le 19 novembre, en déplacement à Marly-le-Roi, le Premier ministre Michel Rocard ne cache pas sa joie.
J'ai quelques regrets de ne pas pouvoir ajouter, pour des raisons de secret des affaires, que j'attends pour lundi matin une grande nouvelle économique, peut-être la verrez-vous dans les journaux, vous vous direz en tout cas pourquoi le Premier ministre avait l'air si heureux ce soir. Mais la France est en train de préparer une telle opération pour une de ses plus grandes entreprises.
L'OPA amical de Péchiné sur Triangle est désormais sur toutes les lèvres dans le petit monde économique et politique. Racheter Triangle, c'est racheter une société qui emploie 21 000 personnes. C'est s'emparer du numéro 1 mondial de la canette en aluminium et du numéro 1 américain de la boîte de conserve. 21 000 personnes. Et Triangle, c'est environ les deux tiers du chiffre d'affaires industriel de Péchiné. Donc, un très gros poisson, une belle prise, qui s'accompagne d'une autre bonne nouvelle.
Joli coup double pour Péchiné, c'est donc de cela que Michel Rocard parlait samedi en promettant une bonne nouvelle économique. Le groupe nationalisé a en effet décidé d'implanter avec EDF une usine d'aluminium à Dunkerque qui va entraîner la création de 2000 emplois. Péchiné a également racheté pour 6 milliards de francs une société américaine et devient du coup le numéro 1 mondial de l'emballage.
Voilà, tout s'est donc parfaitement déroulé. La nouvelle est excellente pour le gouvernement, pour le président, pour l'économie française. Mais un premier nuage arrive. D'abord, sous la forme d'une note des renseignements généraux qui arrive sur le bureau de l'Élysée fin novembre. Il se trouve que des mouvements suspects ont été repérés sur le marché hors-cote, à New York. Habituellement, seulement quelques milliers d'actions Triangle s'échangent en une semaine. Sauf que la semaine précédant l'annonce du rachat de la société par Péchiné, plus de 200 000 titres ont changé de main. La SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine, a détecté une fraude potentielle. Et cette fraude porte un nom, le délit d'initié. Une enquête est ouverte. Le 16 décembre, l'affaire fuit dans les journaux.
Point de départ de cette affaire, l'enquête lancée à New York par l'équivalent américain de notre commission des opérations de bourse. Enquête motivée par d'importantes transactions avant l'annonce du rachat de l'américain ANC par la firme française Péchiné le 19 novembre dernier. Selon la COB américaine, des commanditaires français auraient acheté les 16, 17 et 18 novembre d'importantes quantités d'actions, alors que celles-ci cotaient environ 10 dollars. Jusque-là, rien d'anormal. Mais les mêmes auraient revendu ces actions sitôt la reprise par Pechiney connue, reprise qui avait fait passer le cours de l'action de 10 à 46 dollars. Conclusion des enquêteurs américains, seules des personnes informées au plus haut niveau de l'OPA de Pechiney sur ANC ont pu réaliser une telle spéculation. En termes boursiers, cela s'appelle un délit d'initié et les sanctions peuvent être très lourdes. Reste bien sûr à savoir qui sont ces spéculateurs si bien informés. Ils pourraient, dit-on déjà, appartenir aux plus hautes sphères de la finance, mais aussi de la politique.
Pierre Bérégovoy monte immédiatement au créneau et confie l'enquête à la COB, la Commission des opérations de bourse, l'ancêtre de l'autorité des marchés financiers. Et c'est le juge d'instruction Jean-Pierre Michou qui prend les rênes en tant que chef de l'inspection de la COB. À l'aide de son homologue américain, il découvre rapidement l'identité des bénéficiaires. Et l'affaire prend une mauvaise tournure, car les noms qui émergent sont tous très proches du pouvoir en place. Le premier qui pose problème, c'est celui de Roger Patrice Pellat. Cet homme a été compagnon de Stalag, de François Mitterrand. Il est l'un des seuls à pouvoir entrer dans son bureau quand il veut et sans frapper, ce qui est rare. Le 15 novembre, il a acheté 10 000 actions Triangle juste après la fête organisée par Pierre Bérégovoy. Le deuxième nom de la liste est celui de Max Terret, ex-patron de la FNAC. Souvent présenté comme l'un des financiers du PS, il est le cofondateur de la compagnie parisienne de placement avec son associé Robert Replinger. À eux deux, ils ont acheté 32 300 titres Triangle, 10 dollars pièce, revendus 46 dollars, soit une plus-value de 8 millions de francs. Et le juge Michou découvre un effet domino. Le 18 novembre, Patrick Grumman, qui passe les ordres pour ses patrons Max Terret et Robert Replinger, déjeune avec un ami et client, Jean-Pierre Emden. Eh bien, l'après-midi même, cet ami passe un coup de fil à son agent suisse depuis une cabine téléphonique des Champs-Élysées et il lui demande de se procurer 40 000 actions, plus-value à 1,5 million de francs, et ainsi de suite. Alors, comment ces personnes ont-elles pu avoir vent de l'imminence de l'OPA amicale entre Pechiney et Triangle? Car il faut avoir deux informations. La première, c'est l'existence d'un accord de rachat sur le point d'aboutir. La seconde, c'est la certitude que le gouvernement et l'Élysée vont valider l'opération. Tous les regards se tournent alors vers le ministère des Finances avec cette question lourde. Qui était au cœur de négociations? Le nom d'Alain Boublil se murmure de plus en plus fort. N'est-il pas celui qui connaît tous les acteurs du dossier?
Les vagues de l'affaire Pechiney entraînent avec elles le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy. Alain Boublil vient en effet d'annoncer à l'instant sa démission. Non pas qu'il soit désavoué par le ministre de l'Économie et des Finances, mais les accusations portées contre Alain Boublil vont loin et comme l'a expliqué Pierre Bérégovoy ce matin sur Europe 1, il faut que son directeur de cabinet puisse se défendre.
Alain Boublil débarqué, le navire socialiste commence à tanguer.
Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Sur la côte d'Azur, quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember. Sound all day long in my gown when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol. Plus les folles griffonnant, je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur. sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux de faux, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras cette petite mort?
Aujourd'hui, l'affaire Péchiné, délit d'initié.
France Inter, affaire sensible.
Le scandale du délit d'initié lors de l'achat de la société américaine Triangle par Péchiné atteint les plus hautes sphères de l'État. Alain Boublil est donc débarqué. Et le fait que Roger Patrice Pelat, ami intime du président, ait pu s'enrichir dans une opération pareille ne passe pas. Le 21 janvier 89, le quotidien Le Monde titre sur un rapport concernant les délits d'initié et révèle que Pelat n'aurait pas acquis 10 000, mais 50 000 actions Triangle. Les 40 000 autres auraient été achetés plus discrètement par la Suisse pour éviter d'identifier le commanditaire. En réalité, on apprendra un peu plus tard que ce ne sont pas 40, mais 20 000 actions achetées. Mais sur le coup, l'affaire s'emballe et les journalistes font pied de grue devant le domicile de Roger Patrice Pelat pour recueillir sa réaction.
J'attends que la commission d'opération de bourse fasse son travail, qu'elle le fasse avec célérité, avec... tranquillité, c'est tout ce que j'ai à dire.
Hein. Oui, mais vous êtes mis en cause tous les jours, dans tous les journaux, et vous ne réagissez pas.
Je suis un homme patient, je vous dis, j'attends, je ne veux pas gêner les gens de la commission de bourse, pour la raison suivante, c'est qu'ils ont besoin de leur tranquillité pour faire ce travail. Quand ils auront remis leur rapport, nous verrons.
Mais vous-même, vous ne pouvez pas donner quelques éléments?
Rien. C'est terminé. Ce que je regrette, par contre, c'est que vous pensiez que... je me cachais, je me cache pas, vous voyez, je viens, je marche à pied et je fais ma petite promenade tranquille dans Paris.
En réalité, il n'y aurait pas eu à proprement parler de rapport remis à François Mitterrand. Mais il a bien été averti des soupçons qui pèsent sur son ami par Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur. Le 31 janvier 89, la COB dévoile enfin son rapport de 47 pages qui recense les noms des acheteurs des titres Triangle. Une liste longue et des bénéfices colossaux. Révélation dont la droite, par la voix ici d'Alain Juppé, fait ses choux gras.
Un des thèmes que M. Mitterrand avait longuement développé, c'était son aversion personnelle pour l'argent. Je constate qu'il est entouré de personnes qui ont pour l'argent, non pas de l'aversion, mais une grande affection. Et c'est vrai que ça pose un problème. Ça pose un problème de doute et de soupçon dans la vie politique française. Et ça pose surtout un problème pour l'image de la France à l'étranger. On avait l'habitude de dire, ça n'était pas mon opinion, mais beaucoup d'observateurs le disaient, que la France avait la droite la plus bête du monde. Je me demande si les socialistes ne sont pas en train d'apporter la démonstration qu'elle est la gauche la plus pourrie du monde.
L'affaire fait parler en France, mais aussi à l'étranger. À Londres, le Times explique que l'affaire est doublement embarrassante pour le président. Touché personnellement et politiquement, écrit le journal. Et The Independent rappelle, je le cite, que la gauche tirait sa force et sa crédibilité morale de son aversion pour le pouvoir corrupteur de l'argent. Bref, cette affaire éclabousse François Mitterrand. Alors, le 12 février 89, sur TF1, il profite d'une interview pour mettre une distance entre lui et son ami si cher, Roger Patrice Pelat.
Pour Péchiné, s'il est révélé que Patrice Pelat s'est contenté de jouer en bourse comme le font des millions de Français, je n'aurais pas à lui en vouloir ou à regretter son action. S'il se révèle avoir commis une faute, dans le cadre de mes fonctions, j'estimerais que je ne peux pas préserver la même qualité d'amitié que celle que j'ai connue pendant si longtemps.
À partir de cette date, Pelat va s'éclipser de l'Élysée. Le compagnon de Stalag, l'ami de 50 ans, n'y est plus le bienvenu. Et puis, l'affaire a pris une tournure judiciaire. Le 1er février, la juge d'instruction Edith Boisette a été nommée. et elle entame une longue enquête pour comprendre ce qui lie les différentes personnes mises en cause et pour remonter jusqu'à celles que l'on nomme les initiés, celles qui détenaient l'information et qui ont pu la transmettre. Et des liens, il y en a, en pagaille, entre les familles Bérégovois, Boublil-Épelat d'abord. Et l'enquête parvient à révéler qu'Alain Boublil avait bien soufflé un mot du rachat à Roger-Patrice Pelat. Et puis Pelat, en rendant visite à son ami Max Théré en clinique, aurait à son tour évoqué l'OPA. Mais sur ce point, Théré dément formellement. C'est uniquement son sens des affaires et son flair qui l'ont conduit à acheter des actions. Et au contraire, c'est lui qui a prévenu Pelat du bon coup à jouer en bourse. Son ami n'y est pour rien. Ensuite, il y a Traboulsi. L'enquête met au jour un lien entre l'homme d'affaires libanais et la société de négoce suisse Socofinance. Et ça, c'est un autre volet de l'affaire Péchiné Triangle. Quelques 140 000 actions ont été échangées hors de France, en transitant principalement par la Suisse, donc. Socofinance a racheté 91 000 titres Triangle via une banque fictive située aux Antilles britanniques, soit une plus-value de plus de 21 millions de francs. Et la SEC, le gendarme de la bourse américaine, a une longueur d'avance sur son homologue français. Elle a accès aux noms des acheteurs qui sont passés par la Suisse, justement. Alors un rapport est transmis à la COB, qui met Samir Traboulsi en mauvaise posture.
Dans ce rapport, en première ligne, un pays, la Suisse, et trois sociétés financières. C'est par elles qu'aurait transité plus de la moitié des titres de la société Triangle, échangés irrégulièrement à New York.
Le rapport des Américains n'en écarte pas pour autant la piste moyenne-orientale. Rien ne prouve en effet que l'on ne retrouve pas derrière ces banques suisses certains hommes d'affaires libanais qui démentent encore.
Il faut chercher les fuites ailleurs que chez moi. Il y avait beaucoup de gens au courant. Il y avait des gens chez Péchiné, il y avait des gens chez Triangle, il y avait des gens chez leurs banquiers, il y avait des gens chez leurs représentants, il y avait plusieurs firmes d'avocats, il y avait les correspondants de ces firmes d'avocats dans d'autres pays. Ça fait beaucoup de monde. Surtout la dernière semaine, la semaine où il y a eu les achats les plus importants, je peux vous affirmer qu'il y avait eu plus de 100 personnes au courant aux États-Unis.
Ce soir, les questions les plus importantes restent posées. Qui a acheté et qui a informé? Qui sont les initiés?
Plus de 100 personnes, dit Traboulsi, et pourtant, tous les regards se tournent vers lui, personnage central de ces négociations. Il semble en effet avoir trop parlé. La juge Boisette remarque les va-et-vient de Socofinance sur le titre Triangle bien avant le mois de novembre 88. Entre août et septembre, la firme a récolté 33 000 titres. Puis, quand les négociations sont interrompues, le 27 septembre, elle en revend 25 000. Donc c'est évident, la société est informée des tractations. Quand Edith Boisette découvre que le dirigeant de Socofinance était présent lors de la remise de la Légion d'honneur de Samir Traboulsi, elle n'a plus de doute. L'informateur, c'est lui, bien sûr. Et ça ne s'arrête pas là pour l'homme d'affaires libanais. Il aurait informé une autre société financière, luxembourgeoise celle-là. Alors que les noms et les manœuvres sortent les unes après les autres, Jean Gandois, le PDG de Péchiné, ne cache plus son écœurement. Ce qui devait être une belle opération pour la France a viré au fiasco. 9 personnes sont déjà inculpées par la juge Boisette en février 89, parmi lesquelles Roger-Patrice Pelat et Max Théré. Mais en mars, Pelat fait un arrêt cardiaque. Il meurt, les poursuites s'éteignent donc contre lui. Les deux acteurs au cœur de l'affaire, Samir Traboulsi et Alain Boublil, ne seront inculpés à leur tour que 2 ans plus tard. Les démarches judiciaires auprès de la Suisse et du Luxembourg ont traîné à cause des mystérieux acheteurs qui ont tenté de ralentir la procédure à coups de recours légaux. Mais comme le pointera le journaliste Jean-Marie Ponto dans Le Point, il faut s'y faire. Il existe dorénavant une nouvelle race de juges qui vont jusqu'au bout des dossiers sensibles, quelle que soit la notoriété des personnes impliquées. Des personnes qui d'ailleurs n'ont pas daigné se rendre parfois aux convocations de la juge, l'obligeant à se déplacer à leur domicile pour les auditionner. À cette époque, le petit monde politico-financier n'est pas encore habitué à se faire bousculer de la sorte. Non, confortablement installés dans leur position qu'ils croient intouchable. Les années s'écoulent, on attend désormais le procès. En France aussi, Max Théré et Samir Traboulsi font tout pour ralentir la procédure en lançant des recours, estimant que le délit d'initié ne relève que de la justice américaine. Et puis voilà qu'en février 93, une révélation du canard enchaîné vient éclabousser celui qui est désormais Premier ministre.
C'est sans doute de l'argent propre que Pierre Bérégovoy a emprunté en 1986 à Roger Patrice Pelat, mais c'est une assez grosse somme, 1 000 000 de francs prêté sans intérêt par l'industriel et homme d'affaires proche de François Mitterrand. Pierre Bérégovoy était alors député, il voulait acheter un appartement à Paris. La réaction de Pierre Bérégovoy au micro de Marie-Ève Malouine est à la fois très ferme et très brève.
Ayant respecté la loi et ayant assuré la transparence de ce prêt, je n'ai pas d'autres commentaires à faire.
Effectivement, tout a été fait devant notaire et le solde du prêt a été réglé par anticipation après la mort de Roger Patrice Pelat en 1989 en pleine affaire Péchinet.
La réapparition du nom de Pelat dans les journaux signe le retour d'une époque et d'une affaire, celle de Péchinet Triangle, qui enfin s'apprête à passer devant le tribunal correctionnel. Ce sera en juin. Avec cette histoire de prêt, la juge Boisette hésite et le dit tout haut dans les colonnes du quotidien de Paris. Ce prêt pourrait avoir un lien avec les actions Triangle. Peut-être devrait-elle ouvrir un supplément d'informations pour vérifier en tout cas une hypothèse. Et si Pierre Bérégovoy avait donné un tuyau à son ami en échange de ce prêt? Mais elle n'ira pas plus loin. Et on le sait aujourd'hui, cette affaire de prêt a conduit Pierre Bérégovoy au désespoir et à son suicide le 1er mai 93.
L'hôpital de Nevers vient de nous confirmer l'information. Pierre Bérégovoy s'est donc suicidé. Le drame s'est déroulé vers 18h15 à peu près. Il était avec son garde du corps en voiture le long du canal latéral de la Loire près du bassin de la Jonction. Pour une raison encore inconnue, Pierre Bérégovoy aurait pris l'arme de service de son garde du corps, serait sorti de la voiture, aurait fait quelques mètres en direction du canal et à 5-6 mètres du bord de l'eau, serait donc tiré une balle dans la tête. On ignore encore les motivations, bien entendu, du drame. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que les sapeurs-pompiers de Nevers sont arrivés rapidement avec les services d'urgence, que l'ancien Premier ministre a été très longtemps à l'intérieur d'une ambulance, mais qu'a priori, dès les premières minutes qui ont suivi le drame, les sapeurs-pompiers savaient que le Premier ministre était cliniquement décédé.
C'est donc dans une atmosphère pesante que le tribunal correctionnel de Paris ouvre ses portes en ce 2 juin 1993. 5 semaines de procès pour 9 inculpés. Le public se bouscule. À la barre, les inculpés défilent et se justifient. Max Terré maintient une version totalement loufoque. Il aurait eu du flair, on l'a dit, grâce à une lettre d'information confidentielle, on l'avait pas dit. Une lettre évoquant le secteur de l'emballage, la dite lettre ayant pourtant été livrée après qu'il a passé ses ordres en bourse à cause d'une grève des PTT. Bien. Quant à Samir Traboulsi, donc il n'a jamais été prouvé qu'il avait directement bénéficié de plus-value sur les titres Triangle, il estime qu'il avait tout à perdre en parlant. En tant que représentant de Nelson Peltz, il a touché une commission de 60 millions de francs. Pourquoi vouloir plus? Enfin, Alain Boublil fait aussi partie des inculpés pour délits d'initiés qui n'ont pas touché de plus-value. Mais les deux sont des bavards impénitents. Alain Boublil dira même qu'il est accusé de délit d'amitié, ce qui, dans un métier comme le sien, peut coûter de la prison ferme. Lors des réquisitoires, le procureur Jean-Claude Marin agonie l'ensemble des inculpés. Il aura cette phrase reprise par tous les journaux. « Avez-vous remarqué comme ils sont à l'aise et fringants, ces 9 hommes qui ont réalisé une plus-value de 45 millions de francs à une loterie truquée? Ils ont gardé leur confort intact, et pourtant, ce sont des tricheurs. » Évoquant la voyoucratie de l'argent, il réclame des peines lourdes, de la prison ferme et des amendes, dont le total atteint 95 millions de francs. Pourtant, les observateurs du procès sentent bien que la justice, dans cette ambiance un peu lourde, n'ose peut-être pas s'aventurer trop loin sur le volet politique. Le jugement rendu quelques semaines plus tard confirme cette hypothèse. 7 personnes sont condamnées, 2 sont relaxées. Parmi elles, Alain Boublil, le directeur de cabinet de Bérégovoy, au bénéfice du doute.
Mon premier mot va à mes avocats, ainsi que toute ma gratitude, parce qu'ils m'ont magnifiquement défendu. Je dois dire aussi que la presse, qui ne m'avait pas ménagé au début de cette affaire, a rendu compte du procès dans des conditions d'objectivité tout à fait remarquables. Et ce n'était pas non plus facile, et je lui rends hommage.
Est-ce que vous éprouvez quelque chose vis-à-vis de Traboulsi, condamné, lui?
Je n'éprouve rien. Pour l'instant, je réalise que c'est peut-être la fin du cauchemar.
Samir Traboulsi, lui, écope d'une peine de 2 ans avec sursis et 25 millions de francs d'amende. Max Terré, même peine, et 2,5 millions de francs d'amende, ainsi que la confiscation de ses plus-values. Les sept condamnés font appel, et le parquet de Paris, à son tour, décide de faire appel de la relaxe d'Alain Boublil. Alors, c'est reparti pour un tour. Un an plus tard, les accusés se présentent de nouveau devant les magistrats. Mais l'affaire tourne au vinaigre, et pour tout le monde. Car les peines sont alourdies. De la prison ferme est même prononcée à l'encontre de Samir Traboulsi et d'Alain Boublil. Le choc est immense pour l'ex-directeur de cabinet.
Pendant de longues minutes, alors que la salle d'audience se vidait, Alain Boublil est resté assis à sa place, littéralement groggy. Le temps de comprendre que son dernier recours, un pourvoi en cassation, lui évitait au moins dans l'immédiat d'aller en prison. Et puis l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy s'est éclipsé en murmurant « J'ai 25 ans d'honnêteté au service de l'État, ce qui m'arrive est stupéfiant ». C'est l'avocat d'Alain Boublil qui a fait face aux micros et caméras.
Ce que je constate, c'est que cette condamnation repose sur une simple construction intellectuelle. Et il me paraît dangereux qu'une justice, contrairement à la justice d'autres pays, puisse entrer en condamnation en absence de tout élément de preuve et culpabilité.
Les deux condamnés gagnent une année de liberté, le temps que la Cour de cassation se penche sur leur cas en octobre 1995. Mais quand vient l'heure de confronter à nouveau les juges, aucun des 27 moyens de nullité soulevés par les avocats ne convainc. Alors, fini les parties de tennis au Racing Club et les balades en yacht, direction la prison.
Les deux hommes qui s'étaient constitués prisonniers au début de la semaine, ainsi que le veut la procédure, devront rester en prison et purger leur peine.
Déçu, pas d'autre déclaration. Horriblement déçu par la décision. Monsieur Boublil n'a jamais été accusé d'avoir perçu la moindre somme au titre du délit d'initié. Je ne vois pas comment on peut le condamner.
Condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, Alain Boublil a toujours protesté de son innocence, mais la justice française en a décidé autrement. Le scandale Péchinet, qui aura atteint l'entourage de l'ancien président de la République, est aujourd'hui terminé, mais il subsiste des zones d'ombre, des incertitudes et des non-dits. C'est le propre des affaires d'État.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Péchinet. Notre invité, Gilles Guettner. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste pour l'Express au moment de l'affaire Péchinet, affaire que vous avez couverte. Quelle était l'ambiance à la rédaction de l'Express par rapport à cette affaire? C'était un bouillonnement? C'était quoi?
C'était un peu de la folie, quoi. Parce que dès l'instant où le nom de Pelat a circulé. Eh oui. Peu de gens à l'Express connaissaient, savaient qui était Roger Patrice Pelat. Il se trouve que je le savais. Bon, alors, j'ai eu plus de facilité pour enquêter. Et finalement, j'ai réussi à avoir confirmation dès le mois de, je crois, c'était fin décembre, que Roger Patrice Pelat figurait parmi les initiés.
Et vous vous êtes dit, à partir du moment où il y a cet homme-là, si proche de François Mitterrand, l'affaire va prendre une dimension.
Ah oui, absolument. Ouais. Ça, c'était... On voyait bien qu'il y avait... Et d'ailleurs, la direction des renseignements généraux m'appelait. Est-ce que vous avez eu nouveau? Comment ça se passe? Enfin, il y avait une excitation tout à fait étonnante. Aux renseignements généraux, on savait parfaitement qui était Roger Patrice Pelat. Hein. On connaissait son curriculum vitae, on savait que c'était un vieux compagnon de François Mitterrand. D'ailleurs, on ironisait un petit peu sur son passé, puisqu'il avait été militant communiste, et que maintenant, il était, si j'ose dire, avec cette affaire, un peu de l'autre côté, quoi.
Côté des capitalistes.
Voilà. Et on le verra avec l'arrivée, si je puis dire, dans la scène de Max Terray, ouais. Qui est un ancien militant trotskiste. Et on pourrait aller encore plus loin, puisqu'il y avait eu un slogan de Bérégovoy, pas à ce moment-là, mais un peu après, mettre de l'argent à gauche, c'est à droite. Et là, ils l'ont fait.
Je ne connaissais pas cette formule, je vais la noter parce que elle est quand même, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on sait de plus de la façon dont François Mitterrand a vécu ça, a réagi par rapport à ce qu'on a dit, nous?
Si vous voulez, François Mitterrand est un homme, tout le monde le sait, qui compartimente tout. Est-ce qu'il a parlé à Roger Patrice Pelat de cette affaire? Ça, c'est un mystère. Moi, à mon avis, ils en ont parlé, tous les deux. Hein.
Ça paraît évident.
Ouais. Oui, ça paraît évident, mais on ne sait pas. Ça, c'est l'un des mystères de l'affaire Péchinet.
Alors, au-delà du scandale, il y a le mécano économique, on peut en dire un mot, il est intéressant parce que c'est le rachat d'une société qui pèse les deux tiers du chiffre d'affaires de Péchiney. D'habitude, c'est le gros qui mange le petit. Là, oui. C'est un peu comme si le petit faisait un festin, quoi.
Oui, oui, là, c'est absolument... c'est l'inverse, d'autant que Pels est quelqu'un de très puissant aux États-Unis. Il a,
donc, c'est le PDG de Triangle.
Oui, le PDG de Triangle. Il a plusieurs... il a 2 à 3 000 restaurants. Il a investi dans les supermarchés. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très important, quoi. Alors, on a du mal à comprendre, sauf qu'après... au bout de quelques mois, on s'aperçoit que il a gagné 500 millions de dollars dans cette affaire.
Ah, oui, donc c'est tout va bien, quoi.
Donc il n'y a pas de perte là, c'est quand même intéressant, quoi.
Ouais. Alors il y a une perte quand même pour l'industrie française, parce qu'on le disait, c'était une belle opération finalement.
Oui.
C'était une OPA amicale, il n'y a pas de drame, c'est une belle opération.
Absolument, absolument.
Et donc ça a tout gâché.
Absolument, oui, absolument. Et ça. Et maintenant, d'ailleurs, quand on regarde, Péchiney n'existe plus. Enfin, c'est, ouais. Tout ça a été réduit en cendres. Ça a été quand même un coup terrible, d'autant plus que le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard...
J'allais vous parler de Michel Rocard, il était heureux, lui.
Et quand il a appris ça, il était effondré, parce que c'est quand même lui qui prenait la vertu, le talent, tout a foutu le camp, quoi. Ça, c'est une catastrophe pour l'image de marque, et Alain Juppé a raison, pour l'image de marque de la France, c'était très mauvais. Mais après, le RPR sera aussi dans les affaires.
Oui, alors le RPR, parce qu'à l'époque, c'est le RPR qui fait, on a entendu Alain Juppé, qui fait ses choux gras de l'affaire.
Oui.
Ça, j'allais dire, c'est de bonne guerre.
Oui, oui, c'est classique. Mais enfin, bon, ce qui est surtout important dans l'affaire Péchiney, à mon sens, enfin, surtout, il y a beaucoup de choses importantes, mais c'est, disons, la première fois qu'on met à bas tout un système. C'est le début de la République des affaires, puisque quelques mois plus tard, il va y avoir une autre affaire avec un nouveau directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, qui va être, lui, embringué dans l'affaire de la Société Générale. Ouais. Et puis après, il y a eu l'affaire Luchère. Enfin, il y a eu quand même 2-3 ans d'affaires relativement importantes et qui ont quand même porté un coup à la République morale du Parti Socialiste. Hein.
Il y avait eu d'ailleurs en 86 l'affaire du Carrefour du Développement.
Absolument,
alors,
absolument.
Qui avait impliqué, alors c'est celle-là, elle est incroyable, parce qu'elle avait impliqué et la gauche et la droite.
Oui, absolument, absolument. Mais l'affaire Carrefour du Développement, elle a également eu des dégâts très importants. C'est qu'elle a débouché sur une amnistie de la classe politique, et ça a été terrible.
Oui,
et vous avez vu que depuis 86, aucun homme politique, aucun chef de la majorité n'a voulu s'aventurer sur le terrain du pardon.
France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel.
Cher Gilles Guettner, vous avez 40 ans de journalisme derrière vous, faites partie des journalistes et qui ont vu certaines évolutions, des changements dans les mœurs. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir à quel point les mises en cause, à l'époque, ne se percevaient pas comme des justiciables, comme les autres. Hein. Alors, je reprends deux exemples. La juge Élie de Boisette a parfois dû se déplacer chez ces personnes-là pour les auditionner, car elles ne répondaient pas à leur convocation, elles n'allaient pas au tribunal. Comment, moi, tribunal, je ne vais pas. Et vous vous souvenez d'un épisode, je crois, le juge Michaud, qui a mené la première enquête pour la COB, la Commission des opérations de bourse, s'est retrouvé dans un grand hôtel parisien pour auditionner Roger Patrice Pelat. C'est le marqueur d'une époque, c'est pas la fin justement, mais c'est l'impunité habituelle dont bénéficient les puissants qui se sentent intouchables.
Non, c'est le commencement d'une autre époque,
bon,
je dirais, parce que un justiciable qui ne défère pas la convocation d'un juge, on vient le chercher maintenant. Hein. Et on voit bien que les juges ont une conception tout autre que celle de leur lointain, parce que ça fait maintenant 40 ans, 35 ans, de leur lointain collègue. On l'a vu avec l'affaire Sarkozy. Vous avez vu la façon dont il est traité. Je dis pas que c'est injuste ou juste, c'est pas le problème.
C'est un constat.
Hein. Mais disons que c'est assez fort, quoi, ce qui est fait. Les instructions sont quand même assez violente, et cela dit, ni d'ailleurs celui qui est mis en cause, l'ancien président de la République, ni les juges ne font preuve de mansuétude. Il y a une espèce de violence qui n'existait pas au moment de l'affaire Péchiney. Ça me paraît très net.
Oui, mais c'est ce que demande le peuple aussi. Il demande une justice indépendante qui doit être dure et avec les puissants quand il faut qu'elle soit.
Oui, mais alors quand ça dépend quelles sont les opinions politiques qu'on a. Si on est plutôt sarkozyste, on considérera que le sort réservé à Sarkozy est scandaleux. Si on est plutôt très hostile à Sarkozy, on dira que finalement c'est injusticiable comme les autres. On n'en finit plus. Hein.
Ah, on n'en finit plus.
Ce qui est sûr, c'est que les choses ont changé.
Ils ont changé, mais enfin, si un puissant, notamment un politique, sait qu'il est maintenant injusticiable comme les autres, ça peut quand même moraliser la vie politique. Ça fait partie des éléments qui peuvent moraliser. C'est plutôt une avancée, non ?
Oui, eh bien, vous avez raison, ça devrait être une avancée, mais on s'aperçoit que depuis 1981, sur 40 ans, la corruption est toujours là.
Certes.
Vous avez vu que on a voté, enfin, le gouvernement, Monsieur Macron a fait voter plusieurs lois sur la confiance dans la vie publique, et que finalement, il y a eu 7 ou 8 ministres qui ont dû démissionner pour avoir mis les mains dans le pot de confiture. Donc, l'avancée, la moralisation, elle n'est pas vraiment là, enfin, il me le semble.
Hein. Quels étaient les rapports entre la presse, dont vous et tous vos consoeurs et vos confrères, avec ces juges, justement ? Pendant l'affaire, est-ce que on peut glaner des informations auprès des avocats, c'est sûr,
mais
auprès
des juges. Les gens qui sont partis.
Auprès des juges. C'est toujours intéressant, ça.
Oui, alors je ne vais pas vous dévoiler.
Non, mais
il y a des juges qui peuvent vous mettre sur la piste. D'autres, quand vous les interrogez, ils vous disent l'article 11 du Code de procédure pénale sur le secret de l'instruction ne vous interdit pas de parler à un journaliste. Venez me voir. Mm-hmm. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Bon, alors après, bon... Il est sûr, vous savez, on peut aussi utiliser les avocats des parties civiles, les avocats des mises en examen.
C'est plus facile, c'est plus légitime.
C'est plus facile. D'ailleurs, ils peuvent, d'ailleurs, ils parfaitement peuvent, s'exprimer. Ouais. Autrement, moi, il m'est arrivé quelques magistrats, pas forcément juges d'instruction, énervés par une affaire qui n'avançait pas, se disent, ma foi... on peut peut-être...
On passe par la presse.
Absolument, on peut peut-être passer par la presse. Mmh. C'est une chose...
On donne deux, trois informations qui peuvent soulever d'autres choses.
Alors, je pose maintenant la question, faut-il, oui ou non, supprimer le secret de l'instruction ?
Oui ou non, pour vous ?
Alors, moi, je vais vous dire, je pense qu'en matière financière, c'est pas nécessaire. Par contre, en matière criminelle, je pense qu'il faut le maintenir assez fort. Vous avez vu les récents faits divers où... tout part n'importe comment, tout part à volo. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose, ça y est, il est accusé.
Et on débouche sur une erreur judiciaire.
Absolument. Et on peut déboucher sur un drame. Absolument. En matière financière, d'ailleurs le juge Van Rumbeek le dit souvent au cours de ses interviews, tout est dans les documents financiers, donc on arrive à remonter les pistes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'Edith Boisette a remonté la piste jusqu'aux initiés dans l'affaire Péchinet.
Bien, ce sera le mot de la fin, Gilles Gettner. Merci infiniment.
Mais merci à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Péchinet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Corentin Rouchy.